C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Bon, on a beaucoup parlé de ce forum sur la violence, mais ce qui retient énormément l'attention ce matin, ce sont les chiffres, les dossiers de cyber-enquête au SPVM. Et la croissance est hallucinante. Quand vous regardez le nombre de cas, c'est des augmentations, par exemple, par rapport à l'an dernier, de 68 %. Et ce sont des gens qui font la promotion de la culture des armes à feu, qui utilisent cette culture-là, je dirais, dans différents contextes. Ça peut aller vers des menaces. J'en parle ce matin avec Maya Allier. Elle est sergente-détective, superviseure. C'est elle qui est responsable depuis le début du module de cyber-enquête au SPVM. Madame Allier, bonjour.
Bon matin, M. Arcand.
D'abord, c'est beaucoup de dossiers là, que vous avez ouverts depuis un an. Ça veut dire quoi? Là? Comment on l'interprète? Que les gens n'ont plus de gêne, on s'exhibe sur les réseaux sociaux avec des armes à feu, puis c'est bien correct.
Bien, vous l'exprimez très bien. Effectivement, ce qu'on pouvait faire ou on pouvait voir en 2018, par exemple, ou en 2019, c'était beaucoup de gêne de montrer ou publier une arme à feu sur les réseaux sociaux traditionnels, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment la promotion des armes à feu, que ce soit par des vidéos, par des vidéos qui veulent démontrer une certaine vengeance à venir ou promouvoir, glorifier, publiciser. Donc, on n'est pas gêné. On montre sa gloire, on montre sa popularité et on les montre sur Instagram, on va les montrer sur Snapchat, on va les montrer sur TikTok et tout le monde peut les voir.
Bon, c'est important ce que vous venez de dire, là. Ça se passe pas dans le dark web, dans le sous-sol profond. Là. C'est vraiment sur les plateformes les plus communes.
C'est les plateformes les plus communes. Les enfants de l'âge de 5, 6, 7 ans y ont accès. C'est souvent des photos publiques. Elles vont souvent être même géolocalisées, que ce soit dans le territoire de Montréal ou ses alentours. Donc non, on le voit vraiment sur les plateformes que tous nos enfants ont accès à tous les jours.
Et là, est-ce qu'on a affaire à des gangs? Est-ce qu'on a affaire à des individus? Est-ce qu'on a affaire à des musiciens pour qui les armes font partie, là, je dirais, de la feuille de route?
Oui, c'est vraiment le modèle que vous venez de décrire. C'est vraiment, ça inclut tous ces gens-là. Il y a des groupes criminalisés, il y a des jeunes qui sont méconnus du monde policier. Il va y avoir des jeunes qui vont commencer à se faire connaître dans ce monde-là, qui veulent être popularisés dans ce monde-là. Donc, on le voit vraiment, c'est de tout genre. Je l'ai dit hier, puis je le répète, il n'y a vraiment pas de profil type. Donc, tous les gens qui ont accès à des réseaux sociaux, qui sont très populaires sur les réseaux sociaux, peuvent ou devenir témoins importants ou victimes ou plaignants ou être carrément suspect dans un dossier d'armes à feu.
Quel type d'armes à feu vous voyez le plus?
J'ai pas vraiment de chiffres. Je vais pas me prononcer là-dessus, mais on en voit de toutes les sortes. Des fois, je suis surprise moi-même de l'arme à feu qu'on voit. Des fois, on n'est pas capable de dire aussi si c'est des vraies armes à feu, donc on doit faire affaire à des experts. Par contre, on fait cette vérification-là. C'est pas à l'équipe, c'est par enquête de le faire, mais je vous dirais qu'on en voit de toutes les sortes, là.
Et quand vous voyez ça, puis bon, ça vient de différentes sources, évidemment, là, comment on gère ça, un dossier comme ça? Qu'est-ce qu'on fait avec?
Faut comprendre que quand ça se rend à l'équipe cyber-enquête, donc nous, le module est en support aux enquêtes de toutes sortes. Alors, un dossier d'armes à feu typique, quand il se rend à nous, c'est que vraiment, on sent qu'il y a une menace imminente, que ce soit une vengeance, une rétaliation, quelque chose qu'on doit traiter dans l'immédiat. Alors, on va faire des demandes urgentes aux compagnies. On va tenter de localiser, d'identifier que ce soit l'auteur, le détenteur, et on va y aller vraiment en urgence.
C'est inquiétant, vous et moi, là, comme citoyen d'une ville, là, de voir que appelons ça des éléments de culture, souvent on a dit américaine, là, que c'est ça s'installe et ça banalise la violence. Les armes à feu font partie du quotidien de certaines personnes, puis on se cache pas là.
Non, on se cache pas. Puis je pense que je l'ai dit hier, le monde virtuel dans lequel nos jeunes malheureusement évoluent aujourd'hui, il y a une très grande désensibilisation, dénaturation, banalisation de la violence, de l'utilisation des armes à feu, l'opulence en argent, en biens matériels. Donc, c'est vraiment le monde contraire dans lequel on élève nos enfants. Je me répète peut-être de hier, mais nos enfants, ils évoluent dans le monde où on leur apprend à être généreux, gentils, partie honnête. Et ensuite, il y a ce monde virtuel parallèle où tout est dénaturé. Et donc, c'est vraiment une dualité qui est très difficile quand on est en enfance et qu'on a besoin d'être guidé, d'être encadré. On arrive à l'âge de 13, 14, 15 ans et voir une arme à feu sur les médias sociaux, c'est considéré comme plus cool et qu'on doit repartager plutôt que de faire « Oh mon Dieu, il y a quelque chose qu'on doit signaler à la place. »
Je ne veux pas aller dans un cas précis, mais je me souviens d'un jeune qui avait été tué, je pense même, et qu'on a vu dans les heures qui ont suivi des jeunes se réjouir de sa mort, puis encore là, avec des armes et tout ça, c'est comme... Il y a toujours quelqu'un qui a été assassiné, puis c'est comme... Il faut aller sur les réseaux sociaux puis dire c'est nous autres, puis il y a pas de cachette, là. Je veux dire, ils sont pas en train d'essayer d'éviter d'être arrêtés. Ils se manifestent comme si de rien n'était.
Oui, il y a vraiment une certaine assurance que je regarde aussi dans les dossiers que je vois depuis les dernières années. Il y a ce sentiment de sécurité quand on est en arrière d'un écran, on se sent un petit peu infaillible, on se sent très infaillible, on sent où on est anonyme, où on est à l'abri de la loi, mais je vous dirais que les conséquences sont les mêmes et on a quand même un taux de résolution très élevé par rapport à ces gens-là. On est capable de les identifier, de les retracer et de les localiser. Et comme je vous dis, on agit très, très, très rapidement.
Vous avez dit hier, vous avez donné un exemple qui est assez troublant là, d'une petite fille d'âge primaire qui pensait au suicide. Pourriez-vous nous raconter un peu comment c'est arrivé?
C'est que cette petite fille-là qui est en première année du primaire, donc elle transigeait avec un étranger sur l'application WhatsApp, qu'on s'entend, c'est une messagerie chiffrée. WhatsApp appartient à la famille de la compagnie Meta, donc c'est vraiment où on transige avec des messages. Normalement, c'est pas des enfants en âge primaire qui ont cette messagerie-là.
Mais ça veut dire quoi, 7 ans à peu près?
Oui, je pense qu'elle avait 7 ans exactement. Et... il y a eu des menaces, donc notre conversation doit rester privée. Si t'en parles, je vais aller dans la nuit, je vais faire du mal à ta famille. Et les menaces se sont devenues de plus en plus violentes. Elle a eu très, très peur et ils lui ont demandé dans les messages de se faire mal et de se couper.
Se mutiler.
De se mutiler. Et donc, c'est ça qu'elle a fait. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Donc, sa santé, sécurité, je veux dire, elle s'en est sortie. Mais comme j'ai dit hier, la première question, je me suis demandé, oh mon Dieu, est-ce que cette petite va s'en sortir? Et une fois qu'on a su qu'elle va s'en sortir, par la suite, c'était, mais qu'est-ce qu'elle faisait avec la messagerie WhatsApp dans ses mains en première année du primaire? Donc, c'est une réalité tout autre que les policiers dans mon équipe vivent et les policiers aussi sur le terrain. Je pense.
Puis à l'autre bout, là, la personne qui menaçait, quelqu'un de son âge, quelqu'un de plus vieux, le savez-vous?
C'est une messagerie chiffrée. Donc, dans ce cas-là, malheureusement, on n'a pas été capable de
le savoir. Quel conseil vous donneriez à des parents qui vous écoutent ce matin?
Je leur dirais, il ne faut pas avoir peur des médias sociaux. Il faut seulement être en connaissance de cause. Il faut savoir qu'est-ce qu'on permet à nos enfants d'avoir. C'est pas pour rien que les compagnies de médias sociaux demandent un âge légal de 13 ans pour ouvrir un compte. Il faut suivre ces indications-là. Je pense pas qu'il y a d'âge magique. Les autres, ils ont décidé 13 ans, donc je vais y aller avec 13 ans. Par contre, je pense que comme parents, on n'est pas en connaissance de cause. C'est la facilité de remettre une tablette dans la main d'un enfant pour qu'il consulte. Ça nous donne la paix quand on est au restaurant pendant 2 heures et qu'on a envie d'une petite pause. Par contre, qu'est-ce qu'il installe? Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Ça prend 5 minutes à aller regarder. C'est quoi TikTok sur Google? Lire un petit peu. C'est quoi les avantages, les inconvénients? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les paramètres de sécurité? Comment on peut la sécuriser, cette application-là? Démontrer à son enfant qu'on est crédible et qu'on sait. Parce que c'est ça que les enfants veulent. Ils veulent être encadrés. Donc, en leur montrant qu'on sait qu'est-ce qu'ils installent, on a aussi plus de crédibilité comme parents et on sait que quand ils ont besoin d'aide, ils vont venir nous voir.
C'est très préoccupant parce que, bon, on a tous vu la vague de coups de feu encore dans les dernières heures, des coups de feu tirés à l'île des Sœurs, parfois sur des immeubles, mais parfois aussi sur des personnes. Et vous arrivez avec ce rapport-là qui nous montre que cette culture n'est pas en train de s'éteindre, au contraire, que c'est comme en explosion, puis que, avec fierté, je me présente sur les réseaux sociaux avec mes armes, puis je suis content de le dire, puis moi, je suis un gars, puis je menace, puis ça n'est pas mon affaire, je t'envoie un hashtag avec quoi, des menaces puis des armes. Il y a des échanges de cette nature-là.
Il y a des échanges de cette nature-là, je vous dirais, au quotidien. Il n'y a pas de réponse magique. Par contre, je pense vraiment que des étapes comme le forum où les gens se sont tous concertés, vraiment tous les paliers d'intervenants, ça va vraiment être la clé du succès. Hier, les gens ont écouté. Je sens qu'ils ont vraiment pris à cœur qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des solutions à mettre en place, mais il faut qu'elles soient mises en place dans tous les paliers et tout le monde doit être impliqué.
Comme quoi, qu'est-ce que vous avez comme solution?
Je pense qu'ils ont présenté hier les solutions. Je ne veux pas m'avancer sur qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Par contre, je pense qu'en voyant hier ou en écoutant la réalité, beaucoup de gens sont venus me voir par la suite puis ont dit « OK, il faut qu'on intervienne ». Et la clé du succès, dans mon domaine à moi, la cyber-enquête, a toujours été le partage d'informations, de donner des outils. Je parle, mettons, aux policiers de première ligne, il faut les outiller, ces policiers-là. La cyber-enquête, on fait un phénomène saillant pour tous les policiers de première ligne à chaque mois. Donc, par exemple, on va prendre un phénomène comme TikTok, on va le vulgariser pour eux, on va les aviser pour qu'eux, ils puissent répandre la bonne nouvelle aux citoyens où ils savent quoi répondre aux citoyens. Donc, ces genres d'outils-là doivent être dans les écoles, avec les intervenants, pour les parents. Il faut qu'on outille tout le monde qui entoure les jeunes pour que le jeune se sente en sécurité et sente que si jamais il y a un problème sur une de ces plateformes, ils sachent qu'ils puissent se retourner vers des gens qui sont là pour l'aider et qui comprennent. Quand un adulte vient te dire « Ah, est-ce que tu as Facebook? » Le jeune, il sait qu'il n'utilise plus Facebook. Le jeune n'est plus sur Facebook. Il est sur Twitch, il est sur Omegle, il est sur Discord. Donc, il sait, ce jeune-là, que l'adulte est complètement déconnecté de la réalité. Donc, il faut arriver en 2022, malheureusement.
Ouais, faut pas avoir l'aide des
forces. Exactement.
Merci beaucoup d'être venu ce
matin. Ça me fait vraiment plaisir.
Maya Allier, les sergents détectives, superviseurs, et responsables du module enquête, donc au SPVM Cyber-Enquête. Et elle s'occupe de cette unité depuis sa création en 2017. On va faire la pause, puis on revient tout de suite après.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Trois invités ce matin pour parler du livre 5060, c'est l'hécatombe de la COVID dans les centres de soins de longue durée au Québec. Gabriel Duchesne, Katia Gagnon et Ariane Lacourcière, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Pourquoi vous avez décidé de faire ce livre-là en disant « je vais prendre ce moment historique au Québec, là, de la première vague où il y a plus de 5000 personnes qui ont perdu la vie? » Katia, je commence avec toi.
Bien, on a voulu écrire ce livre-là parce que pour nous, c'était un moment important, effectivement, dont il fallait se souvenir. Puis on a tendance à oublier les choses vite au Québec. Et l'autre point, c'était on voulait offrir aux gens un récit ordonné, cohérent et qui montre tous les points de vue de cette crise-là, de cette crise historique. Parce que les gens ont suivi ça, tu sais, dans les nouvelles, ça popette partout. Il y a eu des enquêtes, la coroner. Mais nous, ce qu'on voulait montrer là, aux gens, c'est voici la crise-là racontée par A plus B, par tous les gens qui l'ont vécu, des familles, des soignants, mais aussi des gestionnaires puis de la cellule de crise.
Il y a quelqu'un qui l'a lu, qui m'en a parlé en fin de semaine, et quand vous décrivez ce que ces personnes ont vécu, dans quel état on les a retrouvés, ils arrêtaient aux 30 pages. Parce que, tu sais, t'as beau, on l'a dit aux nouvelles, là, puis ça a pas, mais la façon dont vous le racontez, t'as de la misère à croire que c'est arrivé au Québec, Gabriel.
Oui, c'est vrai que c'est dur à... c'est vraiment dur à lire, mais c'est aussi pour ça qu'on voulait l'écrire. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui est venu me chercher dans toute ma couverture de cette pandémie-là, c'est qu'à chaque fois que j'ai écrit sur les CHSLD, il y a des gens qui m'ont envoyé des courriels pour me dire « c'est des vieux, ils seraient morts pareil ». Puis c'est vrai qu'ils seraient décédés éventuellement, sûrement rapidement, là, mais la manière dont ils sont morts, on peut pas l'oublier, on peut pas le mettre sous le tapis. Il faut se le dire, se le redire, se le raconter. C'est des gens qui sont morts de soif, des gens qui sont morts de faim, des gens qui sont morts dans un lit souillé depuis X nombre de jours. Ce qu'on souhaiterait à personne, que ça serait des animaux, ça serait à la une de tous les journaux. Puis c'est comme si, bon, on est tanné d'en entendre parler. C'est sûr qu'on a appuyé sur le crayon, là, mais je pense qu'il faut... il faut le dire, il faut le redire, il va falloir le dire tout le temps là, que c'est arrivé.
On a de la misère à croire que c'est arrivé au Québec, d'abord. Et je sais que dans d'autres juridictions, là, je pense à New York, ils ont eu l'autre problème aussi, mais là, il y a des questions quand même majeures et ça a été pas mal lancé avec la publication du livre en fin de semaine. Là. Exemple, comment ça se fait qu'on a envoyé autant de patients qui devaient quitter l'hôpital vers des centres que j'imagine on savait désorganisés ou en tout cas avec un manque de personnel, et on les a envoyés pareil. Puis même quand le nombre de lits était stable, on a continué pareil à envoyer des gens. Avez-vous trouvé une réponse à ça?
Bien, il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que au moment, il faut se reporter au moment des faits, là, Paul, on était complètement centré sur les hôpitaux. Hein, on voyait les images des hôpitaux ailleurs dans le monde, débordés, manque de respirateurs, les gens qui mouraient dans les corridors, puis les gens dans la cellule de crise se sont dit « Hey, il faut préparer les hôpitaux ». On a mis Mme Aupaterni en charge de ça, une mission dont elle s'est acquittée de façon impeccable. Elle a préparé les hôpitaux à libérer des lits. Ce faisant, elle a transféré un certain nombre de personnes dans les CHSLD. Là, il y a une ministre, puis une sous-ministre aussi, qui sont responsables de ces gens-là, mais qui n'ont pas eu, l'écoute nécessaire de la part du gouvernement. Dès qu'ils l'ont su, là, le cabinet de Mme Blais, là, ils ont sonné l'alarme. Là, ils ont dit « Hey, faites pas ça. Arrêtez d'envoyer des gens dans les CHSLD. Ces établissements-là ne sont pas équipés là, pour s'occuper de tant de personnes, surtout pas dans le contexte actuel. » Mais il n'y a pas eu d'écoute assez.
Mais juste avant, là, comment ça se fait que ça ne remonte pas? C'est-à-dire que Mme Blais a fait une tournée. Elle nous a expliqué des fois des visites surprises, d'autres fois elle s'annonçait. Je veux dire, elle n'a pas constaté l'état des lieux, puis elle n'a pas allumé plus vite en disant « Mais là, il se passe quoi dans ces centres-là, puis on envoie du monde? » Alors qu'il y a un virus, puis on sait qu'il y a déjà de toute façon des éclosions dans ce genre d'établissement.
Bien, je pense que c'était su, mais comme on l'a écrit aussi, il faut aussi l'écouter. T'sais. Je pense qu'on a écrit qu'ils l'ont mentionné, ils l'ont soulevé, que c'était pas des milieux qui avaient les reins assez solides pour accueillir tous ces gens-là puis être capables de faire face au virus. Mais c'est ça, encore, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, puis je suis pas sûre que la voix ait été entendue très rapidement.
Parce que c'est clair qu'on partait à moins 100, là, Paul. Là. Mmh. Je veux dire, avec des établissements vétustes, sous-staffés, bien avant la pandémie, où il y avait des paquets de problèmes, on n'avait pas de culture de prévention et contrôle des infections. Je veux dire, ces établissements-là étaient extrêmement fragiles dès le départ. Puis ça, Mme Blais, elle savait, elle l'avait fait le tour. Puis les gens lui disaient « Hey, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, il n'y a pas assez de monde. » Elle voyait l'état des lieux. Mais c'est comme si, effectivement, comme depuis 20 ans qu'on parle de ça, là, les CHSLD, là, qui sont régulièrement un scandale, t'en parles ici régulièrement. Pourquoi on ne réagit pas plus que ça? Moi, je ne suis pas capable de m'expliquer ça.
Ce qu'on a dit, par contre, aussi dans le livre, qui est intéressant, c'est qu'au départ, peut-être à partir du moment qu'il y a eu des cas, on était ailleurs, mais au départ, avant que le virus arrive, on avait l'impression de protéger les aînés en les envoyant dans les CHSLD. On se disait, le virus va arriver par des voyageurs, va rentrer par les hôpitaux. Donc, on se disait, si on envoie nos aînés dans les CHSLD, on va créer des genres de forteresses, puis le virus ne rentrera jamais. Mais ça montre peut-être une certaine méconnaissance de c'est quoi vraiment un CHSLD, à quel point il y a du roulement de personnel, du personnel d'agent, des gens qui se promènent partout, des visiteurs. C'était comme impossible de créer des vraies forteresses.
Il n'y avait aucun plan, finalement, de division entre COVID, non-COVID, puis les gens se promenaient d'une zone à l'autre, puis souvent d'un établissement à l'autre en plus.
Oui, puis depuis plusieurs années, on a aussi, dans le milieu des CHSLD, beaucoup adopté l'approche milieu de vie. Donc, c'est plus... On essayait d'évacuer un petit peu la partie soins pour que ça devienne des endroits où c'est agréable de vivre, mais quand, là, il y a un virus qui rentre, on tombe dans une toute autre réalité. Sauf que là, c'était des milieux de vie avec toutes les difficultés pour prévenir les infections, des bibelots partout, des gens qui portaient pas d'uniforme au départ. Fait que, c'était un peu, la recette parfaite pour que ça fonctionne mal, mais justement, on pensait les protéger au départ, c'est pas ça qui s'est passé.
Mm-hmm. Puis, tu sais, on parle de vétusté, mais un exemple concret, là, un CHSLD à Montréal où les cadres de porte sont moins larges que les lits. Donc, quand tu veux créer, puis c'est un vrai exemple, quand ils ont voulu créer les zones chaudes, ils pouvaient pas sortir les aînés des chambres. Ils ont été obligés de débâtir les cadres de porte pour les sortir. Ça, c'est un CHSLD. Donc, on imagine comment, à grande échelle, il y a rien qui pouvait fonctionner, là.
Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée de l'armée a été un point tournant dans les centres?
Oui, absolument. Certainement. Je pense que c'est ça qui a contribué à... comment dire, à revirer complètement la situation. On peut se demander pourquoi on les a pas appelés plus vite. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu, puis les gens du bureau du premier ministre le disent ouvertement dans le livre, là, ça leur tentait pas d'appeler l'armée.
On a toujours un malaise au Québec à dire on se tourne vers l'armée canadienne.
Exactement. Puis là, on a un gouvernement qui est nationaliste, qui valorise le Québec, la prise en charge par le Québec de ses propres responsabilités. Donc, il était mal à l'aise de dire on va appeler au secours Justin Trudeau. Mais c'est ça qu'il fallait faire, parce que clairement, dès qu'ils sont arrivés sur le terrain, en l'espace de 3 semaines, 1 mois, là, la situation changeait complètement. avant dans la cellule de crise, là, ce qu'il nous dit, c'est on voyait un CHSLD arriver dans le jaune, puis là, c'était inévitable, il allait être dans le orange puis dans le rouge quelques jours ou quelques semaines plus tard. Puis quand l'armée est arrivée, c'est ça qui s'est passé. Ils ont complètement changé la donne parce que c'est des gens qui ont vraiment, là, c'est des militaires. Là. Tu leur donnes un ordre, ça se fait. Tu mets un marque, il est fait. La PCI, la prévention, contrôle des infections, c'est fait. Donc, ça a vraiment été extrêmement efficace.
Parlons de la machine gouvernementale. On a parlé de Mme O'Patterney qui, bon, voyant ce qui se passe en Europe, dit « j'ai une vision hospitalière, puis il faut que je libère des lits », puis on peut comprendre ça. Mais la ministre McCann, dans tout ça, t'as l'impression que les gens, puis on l'a vu avec les différents témoignages, là, ont cette capacité assez extraordinaire, quand on est dans la bureaucratie, d'envoyer des notes qui peuvent être interprétées de bien des façons, puis qui te permettent de sauver la face si jamais on te sort un mémo en disant « Oui, mais pourquoi l'as-tu fait comme ça, puis pourquoi tu ne l'as pas fait avant? »
Bien, je dirais que l'exemple de Erin là-dessus est très éclairant, dans le sens que la situation à Erin, là, elle était connue de la part des gens au ministère de la Santé, le sous-ministre et les sous-ministres, deux sous-ministres associés, le 29 mars. Hein? Cette information-là, dans toute sa, tu sais, comment dire, là, les gens, il y avait eu un rapport là, des médecins qui étaient allés sur place, là, qui avaient vu là, l'état de la situation. Ils n'ont pas transmis ça de cette façon-là, ni à Mme McCann, ni à la cellule de crise. C'est comme s'il y avait eu une espèce de... on voulait être rassurant, on voulait dire non, 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 on a la situation sous contrôle. Puis effectivement, c'est ce que le CIUS disait sur le terrain. La situation, nous avons la situation sous contrôle. Ce qui était dans les faits, pas mal l'inverse de la vérité, là. Il n'y avait pas de contrôle, pas en tout là.
Le 29 mars, la PDG du CIUS écrit en soirée, le 29 mars, oui, c'est ça, au sous-ministre Gendron, nous avons la situation sous contrôle. C'est le texto qu'elle envoie. Cette situation-là, sur le terrain, là, il y a trois gestionnaires du CIUS qui sont débarqués d'urgence, une dizaine de soignants pour plus de 140 aînés. Là. Puis ce qui est aberrant dans l'histoire de Erin, c'est que le 10 avril, quand ça sort dans la Gazette, quand le 11 avril, François Legault fait son point de presse, puis sous le choc, bon, on lance une pléiade d'enquêtes, puis de ci, puis de ça, mais la situation n'a pas changé sur le terrain. Les soignants qui sont allés le 29 mars puis les soignants qui sont allés en renfort le 10 avril racontent les mêmes choses, des pansements collés sur des plaies, des gens pas changés depuis des jours, des gens assoiffés, des gens qui ont du vomi séché dans la bouche. On est le 10 avril. Le 10 avril, quand ça sort dans la Gazette, ça fait plus de 10 jours que le CIUS est là, que, comme l'indicatait, trois sous-ministres sont au courant, la santé publique est au courant, la direction du CIUS est au courant. C'est très, très difficile de s'expliquer l'information. Quel chemin a suivi l'information? Qui a su quoi, quand? Mais clairement, là, ils ont sous-estimé. Puis ça, c'est l'exemple de Erin. On peut prendre l'exemple... On a un chapitre complet qui s'appelle « Les canaries dans la mine » qui se passe bien avant Erin, qui est au mois de mars, où on commence à avoir des cas dans les CHSLD où des soignants rentrent avec des symptômes. Ils ne sont pas testés parce qu'ils ne correspondent pas aux critères. Ils sont forcés, on pense à Sainte-Dorothée, où des gens ont travaillé malades. On leur a demandé de travailler malades. On n'est pas au mois d'avril, là, on est au mois de mars. Puis déjà, on a des cas qui se répandent comme des traînées de poudre dans des établissements. Comment ça se fait que cette information s'est pas rendue plus vite ou a pas été, en tout cas, considérée ou prise au sérieux plus que ça? C'est sûr que c'est un...
Malgré ça, dans le livre, il y a quand même des histoires assez exceptionnelles qui mettent en valeur des comportements qui font du bien. Là. C'est-à-dire que des gens qui... Je pense à ce médecin là, qui a débarqué, puis là, tu dis, OK, là, moi, j'embarque là-dedans, là, puis j'essaie de faire le maximum. Vous avez quand même parlé à des gens qui se sont investis personnellement pour essayer de faire du mieux qu'ils pouvaient.
Je pense que c'est le propre d'une crise. Hein? Il y a des gens qui vont s'écraser avec les crises, puis il y a des gens qui vont s'élever. Puis dans cette crise-là, bien, il y a justement beaucoup de personnes qui ont levé la main, beaucoup de personnes qui sont allées aider. On peut penser aussi même à Je contribue. Là, il y a plein de gens, simples citoyens, qui sont allés aider, donner des coups de main. Puis il y a plusieurs personnes, justement, on donne des exemples dans le livre pour donner un peu de positif aussi à travers tout ça.
Puis, tu sais, je pense aux CHSLD privés là, qui ont été beaucoup pris à partie dans cette crise-là, avec raison. Mais dans un des chapitres, on parle d'un propriétaire de CHSLD, d'une chaîne de CHSLD privés, justement, là, qui, vraiment, c'est admirable, ce que cet homme-là, sa femme, son fils, se sont tous mis ensemble là, pour dire, OK, il faut protéger nos personnes. C'est vraiment... quand on lit ça, ça donne la chair de poule, là, parce que le monsieur, il est vraiment investi, il s'en va acheter des poubelles chez Walmart, il bâtit avec son fils des murs pour faire une zone rouge. Donc oui, il y a des gens qui se sont vraiment investis puis qui ont sauvé des vies dans les fêtes, là.
C'est important de le dire. Merci de l'avoir fait, puis merci d'être venu ce matin.
Merci,
Paul.
Gabriel Duchesne, Katia Gagnon, Ariane Lacourcière, le titre du livre 5060, l'hécatombe de la COVID-19 dans les centres de soins de longue durée.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Notre ami Fabien Cloutier va présenter son nouveau one-man show. C'est son deuxième, d'ailleurs. Et ce sera présenté à partir de l'hiver 2023, donc. Et j'aime beaucoup le titre parce que je trouve que c'est en conformité avec lui, c'est-à-dire délicat.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai?
Oui.
C'est bon? Hein? Fabien, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Non, je trouve que délicat, ça te va comme un gant.
Ben, je trouve parce que on me disait souvent, hey, Fabien, est-ce que ça va être encore corrosif, tout ça? Non, je pense que, tu sais, je suis capable d'être doux, de passer, tu sais, par plusieurs chemins, oui, tu sais, de colorer mes affaires, mais oui, ça me tentait délicat, puis je trouve ça le fun que ça crée un petit choc comme ça.
Bon, qu'est-ce que tu vas nous raconter? En gros, tu es porté par quel courant d'esprit pour écrire ton spectacle?
Ah ben il y a encore toujours ces observations sur la vie quotidienne, comme qu'est-ce qu'on joue comme rôle comme consommateur, comme à tous les jours, les décisions qu'on prend qui jouent sur la société dans laquelle on vit, comment on va la transformer, tout ça. Fait que c'est sûr que après je m'arrête à des mini choses là, tu sais, puis j'essaye d'être dans le détail, mais j'étais encore dans le début de la création de ce spectacle là. Je me suis comme avant, j'aurais pas osé faire ça, mettre en vente un spectacle sans avoir fini de l'écrire. Mais là, je me sens assez grand garçon pour faire... Vas-y, Fabien, lance-toi.
Et Fabien, faut dire que tu as eu une notoriété quand même dans les dernières années avec l'émission Léo. Tu es passé à TVA aussi. Quand tu faisais du théâtre, c'est vrai que c'était très, très cru. Si je pense à Scotland ou encore à Cranbourne. Là, maintenant, est-ce que le fait que tu es plus populaire, ça te fait comme ralentir un peu tes propos parce qu'il y a peut-être des gens qui vont peut-être chialer davantage sur ce que tu dis?
Je sais pas si ça les ralentit, mais je sens un... En tout cas, moi, j'ai un besoin de continuer à les préciser. Puis, tu sais, j'en ai fait des spectacles qui cognaient, puis des shows de théâtre aussi, tu sais, qui est pas pour acteurs, parce que les personnages étaient vraiment, j'aurais envie de dire, par moments, très, très, très rough, là, tu sais, dans leurs paroles. Là, ça me tente d'aller ailleurs. Tu sais, j'ai l'impression que ce que je fais, mettons, aux chroniques le vendredi, tu sais, il y a quelque chose où est-ce que je dépasse peut-être certaines bornes de temps en temps.
C'est ce qu'on veut. Je répète, c'est ce qu'on veut.
Exactement. Mais c'est de trouver le plaisir dans un cadre comme ça. Puis il y a une volonté aussi de faire du bien puis d'être précis. On n'a pas toujours besoin de tuer une mouche avec un bazooka.
On va écouter un extrait du premier spectacle, Assume, de 2016. Et c'est Catherine qui l'a choisi parce que ça parle d'une fille d'Alma. Alors, on comprend. Elle est interpellée. C'est l'appel régional. Oui. On écoute l'extrait, puis après
fille,
ça, on s'en parle.
Elle vient d'Alma. Et elle a gémi. Et a gémi un peu plus que d'habitude parce que après-midi, elle a bu de la Smirnoff. Ça copule depuis quelques minutes, mais la fille du Lac-Saint-Jean décide de parler dans ses gémissements. Ah, mamie! Mamie! Là, mon gars, il trouve ça bizarre. Et c'est important pour lui, le beau parler. Bon, il pinerait pas Charles Serre juste parce qu'il parle bien, là, mais... Lui, il décide de corriger l'accent. Tu vas venir?
Je me sentais littéralement interpellée là-dedans, mais c'est pas toutes les filles du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui parlent comme ça, Fabien, je tiens à le dire.
Je sais bien, mais ça avait été une super expérience. Quand j'avais fait ça au Lac-Saint-Jean, là, tu sais, tu arrives un peu en marchant sur des œufs puis tu fais OK, comment ça va passer? Mais ça hurlait. Alma, là, ce soir-là, c'est... Puis j'en ai même qui venaient me voir puis me disaient « C'est vrai! C'est comme ça!
» un autre extrait qui, là, je me dis tout le temps, quand on parle des animaux,
oui,
puis tuer des écureuils, là, peut-être que c'est, ça va soulever les passions. On écoute l'extrait.
J'ai jamais tué d'écureuil à coups de marteau. Ça mange les fils électriques, ça chie sur le perron, c'est lettre. Puis même s'il y en a un petit maudit qui brise toutes mes tournesols à chaque année, j'ai jamais tué d'écureuil à coups de marteau. C'est juste un fantasme. Violent. Moi, là, je viens d'une famille de chasseurs. Mon premier réflexe, c'est pas « Oh, à moins que je l'attrape doucement dans une petite cage et que j'aille le déposer dans un parc. » Non, non, je veux qu'il meure, la tabarnak. Puis, je peux pas tirer dessus à coups de 12. Je tire pas sur n'importe quoi, moi. Je suis pas un policier américain.
Un commentaire?
Un commentaire, je vais encore parler des animaux. Particulièrement les animaux de compagnie. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, ce rapport qu'on a aux petites bêtes, à comment les gens se transforment avec leurs petites bêtes. Ça, c'est, pour moi, c'est un sujet inépuisable. J'y reviens, ça, c'est garanti.
Écoute, je vais te donner un exemple. Je reçois une nouvelle hier. Je jure que c'est vrai. C'est une femme qui décide de sauver un petit oiseau abandonné par sa mère. Et elle trouve l'oiseau dans un nid. Donc, récupère le petit oiseau, récupère le nid, et pour assurer ce contact maternel, installe et pine sur ses cheveux le nid avec l'oiseau dedans.
C'est pas vrai!
Et c'est devenu son animal de compagnie.
Ah non, mais ça, ces choses-là, moi, j'ai un chum qui avait un coq à ciel comme ça, qui gardait toujours sur son épaule. Il avait toujours un peu de marbre sur l'épaule parce qu'il pouvait pas se séparer de son coq à ciel. Le coq à ciel s'est sauvé, il l'a retrouvé. Il va le ramasser dans un tiède en revenant dans la maison. Il lance comme pour le libérer, il lance un peu trop fort, il l'envoie dans le fan, plus de coq à ciel.
Fabien. Alors, on peut juste te dire qu'on a tous hâte d'aller voir ce côté délicat de ta personnalité.
On va y aller en gang, en tout cas. On est ça, déjà prêts à acheter nos billets.
On est en ligne.
On va faire de la place.
Fabien, on se voit vendredi. Merci.
On va être là. Salut, à vendredi.
Salut. Bye-bye.
Oh, on l'aime. Et dire que Léo, son émission qui est présentée à TVA, n'était pas en nomination au Gala Les Oliviers comme émission d'humour parce qu'on disait que c'était pas une comédie.
Pardon?
Oui, petit
éditorial
ici.
Ah, ça, qu'est-ce que tu veux, là? Ouais. Les galas.
Le merveilleux monde de l'humour.
Parle-moi donc des filles du lac Saint-Jean puis d'Alma, toi.
Moi, je connais les filles plus de Chicoutimi-Nord.
Ah!
Oui, évidemment. Alma, je les connais.
Smirnov ou pas?
Non, pas Smirnov. Une petite Smirnov, là. Va venir, là.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On va regarder un peu les chiffres de la Société des alcools du Québec qui a présenté hier son rapport, son troisième trimestre financier. La présidente, chef de la direction, est avec nous, Catherine Dagenais. Madame Dagenais, bonjour.
Bonjour.
On a l'impression que la machine redémarre un peu, c'est-à-dire que, bon, on comprend la période de pandémie, les restos fermés et tout ça, mais que là, presque 500 millions de profits, c'est quand même pas si mal.
Mais 500 millions, effectivement, pour le troisième trimestre, qui est notre plus gros trimestre de l'année, là, avec
Noël,
Noël, exactement. Les allègements ont fait du bien, la restauration a redémarré ben jusqu'à la fin décembre. Là, oui, effectivement, on peut dire que les gens ont été au rendez-vous.
Est-ce que vous avez observé des changements de comportement ou des comportements un peu différents depuis, mettons, je sais pas, la dernière année, là? Des gens qui ont peut-être investi plus, moins, en ligne davantage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé chez le consommateur?
Bien, il y a plusieurs choses. Au début, le consommateur venait moins dans les succursales, mais achetait plus. Là, le consommateur revient à ses comportements d'avant la pandémie, si je peux le dire. Donc, fréquente nos succursales plus fréquemment. Donc, achète un panier plus bas que ce qu'il faisait là, pendant la pandémie. La vente en ligne continue à prendre de l'ampleur. Il y a des catégories de produits aussi, mais je dirais qu'il n'y a pas...
Des catégories de produits.
Il y a certaines catégories de produits, comme par exemple les produits bio, les produits du Québec, sont toujours... on le vend dans les voiles, les prêts-à-boire aussi, sont des catégories de produits qui sont très en demande.
On a beaucoup parlé des enjeux d'approvisionnement. On comprend qu'on a eu le conflit de travail, puis après ça, on se retrouvait devant des tablettes vides dans les succursales. Là, les tablettes sont regarnies, mais est-ce qu'il y a encore des enjeux là, d'avoir accès puis de faire livrer les achats que vous faites de vin et d'alcool?
Donc, au niveau du transport, c'est un enjeu que tous les gens qui importent des produits vivent. La SAQ est pas exclue de ça. Donc, on peut plus être dans le juste à temps. Là. On doit prévoir nos commandes un petit peu plus d'avance pour s'assurer d'avoir les stocks pour renflouer nos succursales. Alors, il y a une tension qui est là, qui est gérée, puis qui est suivie là, par les équipes pour s'assurer d'avoir les bons produits au bon moment.
Est-ce qu'on s'attend à une augmentation de prix?
Ben là, j'ai pas le choix que de vous répondre oui à la question. Hein. C'est un sujet qui intéresse tous les consommateurs. À toutes les semaines, on lit là-dessus. La SAQ fait pas exception à ça. Les coûts de transport dans la dernière année ont triplé. Donc, c'est énorme au niveau de ce que ça représente sur le coût d'acquisition du produit. Puis nos producteurs aussi ont des coûts plus élevés que qu'avant par rapport à la matière sèche, par rapport à la main-d'œuvre. Alors là, on est en période de négociation. Alors, je peux pas vous dire le pourcentage, quel produit va augmenter de combien. Mais
là,
si
on est dans un univers où l'inflation est à peu près 5 %, là, on ne sait pas quelle sera la tendance, mais est-ce qu'on s'attend à ce genre d'augmentation?
Écoutez, j'ose pas dire un chiffre.
Mais ça sera pas 2 %, ça sera pas 1 %.
Je ne crois pas, parce que la taxe d'assises va augmenter d'environ, je pense que c'est 1 %. Là, j'y vais de mémoire. Les coûts de transport, les coûts d'acquisition, mais après, ça va être, bon, l'euro est moins cher qu'il y a quelques mois. Alors ça peut aider, ça peut diminuer l'augmentation, mais c'est certain qu'on va avoir une bonne augmentation. Est-ce que ça va être 3 %, 4 %?
Puis à quel moment vous pensez que ça va être annoncé?
Ça va être annoncé. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on va négocier avec nos partenaires l'acquisition des produits. Donc, on va le savoir là, dans les fin avril, début mai.
OK. Est-ce que, au-delà du fait que c'est difficile en raison du transport là, de faire venir la marchandise, les producteurs sont en mesure de livrer les stocks qu'ils étaient en mesure de faire dans le passé? C'est la même chose ou c'est plus compliqué?
Ça dépend des produits. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont en forte demande. Je pense notamment à certains champagnes. Je pense, par exemple, au whisky. Ce sont des produits en forte demande. La SAQ a des allocations parce que ça fonctionne sous allocation. Mais si notre portefeuille d'achat est de 5 %, puis que le producteur a pas plus de champagne ou de whisky à vendre, ben on achète ce qu'on peut acheter. Mais de façon générale, on est en mesure là d'acheter les bonnes quantités de produits.
Parlons de la vente en ligne. Vous dites que c'est en augmentation?
Oui.
Importante?
Ben en fait, au cumul là, on est à peu près entre 5 à 10 % sur l'année passée.
Il me semble qu'en période de pandémie, ça aurait dû augmenter plus que ça, non?
Ben en fait, le client est revenu. Ben certains clients sont revenus à leurs anciennes habitudes, c'est-à-dire que de fréquenter les succursales, alors que d'autres, ben ont continué. On a une base de clients beaucoup plus importante aujourd'hui qu'on en avait une il y a deux trois ans, et ça va continuer. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de faciliter l'accès aux produits en ligne et d'offrir une livraison plus accélérée. Et ça va nous aider.
Quels sont les obstacles ou en tout cas les difficultés que vous avez identifiées dans la vente en ligne?
Ben en fait, l'obstacle qu'on a présentement, puis on a annoncé l'année dernière là, un agrandissement de notre centre de distribution, c'est la capacité de notre centre en ligne de faire toutes ces commandes-là parce que la demande est accrue. Alors, ce qu'on a annoncé, c'est un agrandissement du centre. Entre-temps, on doit déménager SAQ.com dans notre centre de distribution où on prépare de la restauration, ce qui va nous donner accès à plus de produits et plus de vélocité, même si notre centre n'est pas automatisé pour le moment.
Est-ce qu'on est en retard un peu sur les technologies? Parce que je vous donne un exemple là, des auditeurs qui m'écrivent. Je commande un bidule de 40 $, ça m'arrive comme ça en 48 heures, puis j'ai pas de frais, puis bon. La SAQ, il faut que j'aille chercher ça à la succursale des fois. D'autres fois, ça peut être livré à domicile. Ça a l'air plus compliqué.
Bien, ça, c'est le choix du client. Le client a toujours le choix de faire livrer à domicile ou de faire livrer en succursale. 80 % des clients, des commandes en ligne sont livrées en succursale à la demande du client.
Est-ce qu'il y a toujours des frais de livraison?
Les frais de livraison, si c'est livré à domicile, effectivement, de 12 $.
Pourquoi Amazon ne me charge rien?
Ben, en fait, ça, c'est la question à 100 piastres.
Je la pose.
Oui. Alors, ben, écoutez, le vin, c'est un produit qui est lourd, vous le savez, qui est cassant, qui est cher à déplacer et qui requiert aussi une preuve d'identité. Donc, quand on livre à domicile, on doit assurément valider l'identité, l'âge de la personne qui reçoit. Et ça augmente les coûts. Maintenant, dans tout notre processus de réaménagement de notre SAQ.com de demain, dans l'automatisation, c'est un des éléments qu'on va regarder. C'est certain que le client qui va vouloir... Sur Amazon, quand on commande puis qu'on le veut rapidement, on est prêt à payer le prix. Parfois, on le paye. Mais si on veut pas, ben on est prêt à attendre une journée de plus ou deux jours.
À quel moment vous pensez que ça va être plus souple ou en tout cas que l'achat en ligne va être, disons, moins contraignant?
Ben, dans la prochaine année, déjà, on vise à accélérer, en fait, la livraison à domicile. C'est quelque chose qu'on veut regarder. C'est dans nos cartons pour la prochaine année. Et le déménagement des sacs.com dans notre centre de distribution va nous permettre aussi d'avoir les produits plus rapidement et d'augmenter la vélocité des commandes.
La part des produits québécois, là, puis on peut y aller toutes catégories confondues, ça représente quel pourcentage?
Sur notre site en ligne?
Non, globalement.
Oh mon Dieu, là vous me posez, ouais. j'ai pas la statistique en mémoire, mais vous savez que les produits du Québec augmentent significativement là, mois après mois sur nos ventes. Le pourcentage sur nos ventes globales, je m'excuse.
Non, mais c'est correct.
J'ai une bulle au cerveau.
Non, mais ça va. Mais vous remarquez qu'il y a un intérêt du consommateur.
Définitivement. Puis, ça fait partie de notre plan d'affaires de promouvoir et d'assurer que ces produits-là ont une place de choix dans nos succursales.
Il y a un producteur qui me disait, il n'y a pas si longtemps, en fait, il m'écrivait que, il y a eu ce virage, mais pendant longtemps, c'était difficile d'avoir accès aux tablettes de la SAQ pour un producteur québécois.
Ben écoutez, moi, je peux pas corriger le passé.
Non, mais c'est vrai quand même que c'était compliqué, là. Mais là, heureusement, il y a une approche qui est différente.
Oui, ben on essaie de s'améliorer. Puis ça fait des années qu'on forme nos employés, qu'on travaille avec l'industrie des producteurs québécois pour faciliter cet accès-là. Puis il y a encore des pistes d'amélioration. Je les rencontre cet après-midi, justement. Alors, l'intention, c'est de s'assurer qu'ils ont une place de choix dans nos succursales parce que, ben, d'une part, les consommateurs le demandent, puis d'autre part, ben, c'est les produits québécois. Je pense que en tant que SAQ, c'est notre responsabilité de les promouvoir.
Mais l'autre jour, je parlais avec un de vos employés dans une succursale qui disait, parce que les tablettes commençaient à être garnies, il dit des gins québécois, des produits québécois, ça a l'air difficile. Il y a des marques qu'on voyait avant puis qu'on voit moins maintenant ou c'est plus. Je ne sais pas s'il y a un problème d'approvisionnement.
Écoutez, là c'est que vraiment, ça, je ne suis pas saisie d'un problème d'approvisionnement de spiritueux du Québec. On en vend beaucoup dans nos succursales. Je suis pas saisie de ça.
Okay.
La difficulté d'approvisionnement des produits du Québec, non.
Avez-vous l'intention de revamper vos succursales? Arrive un moment où on se dit qu'il faut rafraîchir ça. Dans la vente au détail, il faut, tu sais, comme on dit, innover, rénover. Avez-vous un plan dans ce sens-là?
Oui. Bien, en fait, tout à l'heure, on parlait du consommateur qui, de plus en plus, achète en ligne. Le consommateur qui vient en succursale s'attend à vivre une expérience qui évolue. Hein? On est tous consommateurs un jour ou l'autre, puis on voit que le commerce change. Alors, évidemment, les deux dernières années ont été difficiles d'un point de vue expérientiel. Hein? On peut pas déguster présentement dans les succursales. Bien entendu, ça, pour nous, c'est une priorité de ramener la dégustation aussitôt qu'on va pouvoir le faire, mais de l'amener plus loin. Donc, que ça soit vraiment... Puis en fait, c'est l'activité préférée du client quand il vient en magasin, il veut goûter. Il veut, tu sais, il veut rêver aussi en même temps. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Beaucoup sur l'expérientiel.
Madame Dagenais, merci d'être venue ce matin.
Merci.
Bonne journée. Catherine Dagenais, la présidente et chef de la direction de la SAQ.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.